Ce matin, donc, je fais l'avant-dernier message sur le livre des juges. Donc, il y en aura encore un autre la semaine prochaine pour clôturer ce livre magnifique. Mais ce matin, je voudrais revenir sur un passage. Il y a 2 mois, nous étions dans Juges chapitre 3, versets 11 à 30, où nous avons eu à traiter qui était le juge. Rappel pour ceux qui étaient là, le deuxième. Le nom. Quelqu'un se rappelle? Le nom du juge. Éhud. Qui était l'ennemi? Vous avez la réponse avec le verset. Les Moabites. Et plus précisément, il y a là un long développement. Qui était le roi des Moab en ce moment-là? La réponse est sur le PowerPoint. Eglon. Donc ce matin, nous allons prendre le même passage et regarder en quelque sorte ces 3 ennemis maintenant qui sont cités. Mais avant ça, j'aimerais qu'on lise à haute voix et regardez votre Bible, où nous allons nous consacrer ce matin à parler de ces 3 ennemis d'Israël. Juges 3, versets 12 à 13. Je vous invite à chercher votre Bible. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Oui, encore. Nous avons vu le cycle 7 fois et un cycle descendant de pire en pire. Encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël. Oh là là, on ne peut pas comprendre là. On pensait que Dieu est toujours avec son peuple, là il est contre Israël. La raison c'est parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et Eglon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites. Il se mit en marche, il battit Israël et ils s'en emparèrent de la ville des palmiers. Rappelez-vous, la ville des palmiers c'est la ville de Jéricho. Donc ce matin, j'aimerais parler avec vous des 3 caractéristiques ou traits de caractère de ces ennemis d'Israël. Mais avant ça, j'aimerais remettre le contexte. Qu'est-ce qui s'était passé en ce moment-là? Donc, rapide survol, hein, le peuple a été libéré d'une oppression de 400 ans en Égypte et maintenant se trouve dans le pays de la promesse, à Canaan. Et nous lisons... Eglon battit Israël et ils s'en emparèrent de la ville des palmiers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque Eglon et ses hommes traversaient le Jourdain et remportent la victoire contre Israël, ils s'établissent dans la ville des palmiers, qui n'est rien d'autre, comme je viens de dire, que la ville de Jéricho. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'était passé avec la ville de Jéricho il y a 70 ans? Avant, maintenant, ce qui se passe avec le roi Eglon. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que vous ne vous rappelez pas de murailles qui étaient tombées à force des décibels? Oui ou non? Eh oui. Et maintenant, trouvez-vous pas que c'est un peu une ironie? Une ville qui était conquise et maintenant se trouve dans la ville de Jéricho même un ennemi, le roi de Moab. Donc, j'ai dit, c'était la ville de Jéricho que Josué avait parcouru et vaincu 70 ans plus tôt. Maintenant, il est contrôlé par les Moabites. Donc, le peuple censé vivre dans la liberté se retrouve à nouveau dans une oppression pendant combien d'années, si vous vous rappelez? 18 ans. Nous avons vu tout cela. Où les Moabites avec le roi Eglon dominent sur Israël. Donc ce matin, je veux revenir, mais nous arrêter sur les 3 ennemis d'Israël. Qui sont les 3 ennemis d'Israël ici? Moabites, les Ammonites et les Amalécites. Donc je veux considérer ces passages. Et sortir des textes bibliques les traits qui les caractérisent chacun et en tirer des applications pour notre vie aujourd'hui. Mais une question se pose quand je veux vous dire les traits caractéristiques de ces trois ennemis. Retenez bien donc, c'est les Moabites, les Ammonites, les Amalécites. Quand je dis traits caractéristiques, qu'est-ce que je veux dire par là? Juste pour éclairer mon propos, vous savez que chaque peuple a des caractéristiques qui lui sont propres. N'est-ce pas? Donc ce matin, avec la parole de Dieu, nous allons juste regarder ces traits caractéristiques. Mais cette fois-ci, on ne va pas regarder dans l'ordre comme c'est écrit Moabite, Ammonite, Amalécite. Mais je vais faire commencer par le dernier, les Amalécites. Après le deuxième, les Ammonites. Et on finit par les Moabites. Donc, les Amalécites, qui sont-ils ces peuples-là? C'est une tribu de nomades qui errait dans le désert de Sinaï et le Negev. Voilà, vous voyez là, ici, les Amalécites, donc leur territoire, et ça va aller vers l'Égypte par ici, n'est-ce pas? Donc c'est une tribu localisée dans les parties nord de la péninsule de Sinaï. Alors, qui étaient leurs ancêtres? Ça, c'est la question importante aussi quand on parle de peuple. Où se situent-ils? Donc, c'est bien là. Et qui étaient leurs ancêtres? C'est le petit-fils d'Ésaü, Genèse 36, 12. Je vais vous le lire. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek, d'où la descendance des Amalécites. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. C'est un petit rappel de toute l'histoire. Là. Et maintenant, regardons les traits caractéristiques des Amalécites. J'aimerais que vous regardiez votre Bible dans Deutéronome 25, versets 17 à 19. Hein, pour regarder maintenant les traits caractéristiques des Amalécites. Souviens-toi de ce que te fit Amalek. Dieu parle ici donc à Moïse. Pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui se traînait les derniers. Pendant que tu étais là, c'est pas là, elle a pour accent grave, là, et épuisé toi-même, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Et tu effaceras la mémoire d'Amalek du dessous les cieux. Et Dieu dit, ne l'oublie point. Quel est le trait caractéristique de Amalécite? Ce passage montrait avec une évidence claire, la cruauté et la lâcheté des Amalécites, mais aussi l'absence de toute crainte de Dieu, en eux, n'est-ce pas, comme il est mentionné dans ce passage. Donc, premier trait de caractère, la cruauté, la lâcheté, l'absence de crainte de Dieu. Et vous voyez, qu'est-ce qu'ils avaient fait d'après ce passage? Mince. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils avaient fait d'après ce passage? Ils s'attaquaient aux membres les plus faibles des Israélites, j'imagine les plus âgés et malades, les vulnérables de la communauté juive qui se traînaient pendant l'Exode, au fond de la queue de peloton, si vous voulez. Donc, plus tard, le terme Amalek devient dans la Bible un idiome référant au mal et à l'ennemi du peuple de Dieu. Donc, Dieu ici dit, vous devrez effacer la mémoire d'Amalek du dessus des cieux, puisqu'il n'avait montré aucune pitié envers Israël. Et quand est-ce que c'est fait? C'est pas dans l'immédiat, mais plus de 4 siècles plus tard, David avait vaincu les Amalécites. Vous pouvez voir dans 2 Samuel 1:1, mais complètement exterminé à l'époque du roi Ézéchias, encore 3 siècles plus tard. Donc ça veut dire l'accomplissement de ce que Dieu dit ici. Il fallait 7 siècles pour raser complètement les Amalécites de la carte. Vous pouvez vérifier ça dans 1 Chronique 4, versets 41 à 43. Donc retenez, selon la parole de Dieu, les traits qui caractérisent les Amalécites et la cruauté, la lâcheté, mais aussi l'absence chez eux de toute crainte de Dieu. Comme je vous ai rappelé juste à l'instant, Amalek est le symbole d'un ennemi toujours présent ici, donc c'est celui qui est l'origine du mal, c'est Satan. Et donc Amalek dans la Bible est le symbole d'un ennemi toujours présent pour nous arrêter dans la vie chrétienne et qui profite de nos moments de faiblesse et de la distance parfois que nous laissons entre le Seigneur et nos âmes, n'est-ce pas? Je ne sais pas l'état dans lequel vous vous trouvez ce matin, mais c'est pour cela que nous devrions nous rappeler de ce que Pierre a dit. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, ici c'est le symbole d'Amalek, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Vous savez comment le lion va chercher sa proie? Quand il y a des troupeaux d'animaux qui vont fuir parce qu'ils voient le lion, ceux qui sont robustes, ils vont filer en avant, et on ne peut pas les rattraper. Mais ceux qui sont un peu chétifs, faibles, vont traîner à la fin derrière. Et le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il va déambuler, il va vous savoir, il ne va pas aller envers ceux qui sont très robustes, qui sont très rapides, mais ceux qui traînent derrière, il va le prendre comme une proie aussi facile. Et il en est de même, Satan aujourd'hui, si... aussi agit de la même manière. Donc, cherchant dans le troupeau la proie qui s'éloigne de ses compagnons, et donc c'est facile et vulnérable. Et c'est ce qu'avaient fait les Amalécites en l'encontre des faibles, ce que nous venons de voir dans Deutéronome 25, verset 18. Sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Voilà ce qui caractérise les Amalécites, ce qui nous amène maintenant à regarder les Ammonites. Les Ammonites, ici, se trouvent ici. Oh, les Ammonites. Regardez, ici, c'est le Jourdain. Ici, c'est la mer morte. Et donc, les Ammonites se trouvent à l'est du Jourdain. Et vous voyez quelque chose qui doit vous faire rappeler qu'il y a le tribu de Ruben, ici. Il y a le tribu de Gad, ici. Il y a les tribus, demi-tribu de Manassé, qui est là. Pourquoi demi-tribu? Parce qu'il y a une tribu, après la conquête, il restait à l'est du Jourdain, mais il y en a une partie de Manassé qui sont rentrés dans le territoire à l'ouest du Jourdain. Vous voyez? Et donc, les Ammonites, c'est un ennemi féroce, donc le plus en danger, c'est les tribus de Ruben, Gad et ce demi-tribu de Manassé. Et donc, nous allons regarder maintenant concernant les Ammonites. Donc, géographiquement, ils sont bien situés sur la carte, comme je viens de vous mentionner. Donc, c'est à l'est du Jourdain, on appelle la Transjordanie. Donc, se trouvaient 2 tribus et demie à qui Moïse avait accordé le droit d'y rester. Donc, le demi-tribu de Manassé, là. Et après, Gad et Ruben. Et ces 2 tribus et demie se trouvaient à l'est du Jourdain. Jourdain est là, on est bien à l'est du Jourdain. Et l'ennemi, s'agissant des Ammonites, se trouvait encore un peu plus à l'est. Vous voyez? Ici. Là. Qui est l'ancêtre des Ammonites, selon vous? Est-ce que...
C'est Lot, c'est les enfants de Lot.
Eh oui. Eh oui. Donc, les Moabites et les Ammonites... C'est le fils, je dis Ammon et Moab, c'est le fils et le petit-fils d'un même homme qui est Lot. Pourquoi le fils et le petit-fils? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Qu'est-ce qui s'était passé? Donc la réponse, c'est tout simplement, vous vous rappelez que lorsque Lot était sauvé de la destruction de Sodome et Gomorre, sa femme a été tuée. Pourquoi? Il a retourné en arrière le regard, il est devenu une statue de sel, donc morte. Et alors ça va engendrer des conséquences, parce que qui va être l'héritier, le descendant de Lot? Eh bien, les filles, ces deux filles ont tourné dans la tête. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lot s'est retrouvé dans une caverne, vous pouvez lire ça dans Genèse 19, versets 30 à 38. Et donc, comme leurs deux filles avaient peur, avaient des craintes, disant que si jamais notre père meurt, il n'y a pas d'héritier. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce que vous vous rappelez?
Ouais.
Qui peut le dire?
Ils ont couché avec leur papa.
Eh oui, mais ils ont saoulé leur papa avec du vin. Et les deux, l'une après l'autre, ont couché avec leur papa. Ça s'appelle l'inceste. Et alors, la fille cadette a donné naissance à Ben-Ami ou Amon. Retenez ça. La fille cadette a donné naissance à Ben-Ami ou Amon. Ben-Ami, c'est Ben, enfant ou fils. Et ami, mon peuple. Donc, signifie littéralement enfant ou fils de mon peuple. Ça, c'est les Ammonites. Vous pouvez lire ça dans Genèse 19:38. Notez-le. Genèse 19:38, je lis, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Maintenant, nous allons regarder maintenant. Nous savons où sont situés les Ammonites sur la carte. Qui est leur ancêtre? Et maintenant, regardons les traits caractéristiques des Ammonites. Je vous dis d'avance qu'il y en a deux traits de caractéristiques en ce qui concerne les Ammonites. Nous allons regarder le premier. Le premier, c'est l'envie de posséder toujours le territoire d'Israël. Regardez Juges chapitre 11. Versets 12 à 13. Donc, dès le départ, avant de lire ce passage, dans l'histoire du peuple d'Israël, les Ammonites se comportent toujours de la même manière. Ils ont toujours envie de posséder ce que Israël a, jusqu'au temps de Jephthé, où ils disent, c'est ce que nous allons voir ici, « Vous avez pris notre territoire et vous nous avez dépossédés dès le départ. » C'est une autre manière de dire que nous voulons ce territoire. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, il va revenir loin dans l'histoire là. » s'est emparé de mon pays depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok et au Jourdain. Et qu'est-ce qu'il veut? Rends-le-moi maintenant de bon gré. Je veux vous situer juste depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok et au Jourdain. Revenons juste sur la carte. L'Arnon, Jabbok ici, l'Arnon quelque part ici et le Jourdain. Donc dans tous ces territoires-là. Il disait que c'est à eux. Or, ce n'est pas vrai. Donc, j'aimerais regarder le premier trait de caractère. Donc, qu'est-ce que nous dit ce passage? Ici, ce que nous dit Juges 11, versets 12 à 13, c'est que, avant d'entrer en guerre contre les Ammonites, Jephthé essaya de négocier avec eux, n'est-ce pas? Il envoyait des messagers à leur roi pour lui demander pourquoi ils cherchaient à faire la guerre à Israël. Et le roi répondit que son seul désir était de récupérer les terres que les Israélites avaient prises aux Ammonites avant d'entrer en Canaan. C'est ce qui est qu'Israël, quand il était monté d'Égypte. Jephté alors envoya à nouveau des messagers au roi d'Amon en relevant les différents épisodes historiques. Et notez le juge, chapitre 11, versets 12 à 28, il va détailler l'histoire de la conquête et de leur pérégrination depuis la sortie d'Égypte. Et il va dire dans ces versets, cela faisait 300 ans que les Israélites possédaient le pays. Donc ce n'est pas nouveau. Pourquoi alors les Ammonites n'avaient-ils pas essayé de le récupérer ces terres pendant ces temps-là, il y a 300 ans? Pourquoi que maintenant? C'est ce que dit en train de dire Jephté. Et Jephté rappelait au roi d'Amon que c'était lui l'agresseur et que le Seigneur, le juge, fixera l'issue de la bataille. Verset 27 de Juge chapitre 11. Donc le premier trait de caractère des Ammonites, c'est que dès le départ, ils voulaient occuper, posséder le territoire d'Israël. Et en quelque sorte, c'est quelqu'un qui convoite et qui veut absolument récupérer de force tout ce qu'Israël a en parlant de ses terres. Il y a un deuxième trait de caractère que nous allons voir dans 1 Samuel 11, versets 1 et 2. Nachash, l'Ammonite, vient assiéger Jabès en Galate. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nachash, l'Ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit. » Oh, c'est gentil. « Et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Nous, diplomates, à le dire, même si on le pense, n'est-ce pas? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à haute voix ce que ses compatriotes peut-être pensent, n'est-ce pas? Et donc là, qu'est-ce que vous voyez? Il voulait humilier le peuple de Dieu. Donc le roi des Ammonites, Nachash, voulait humilier définitivement les Israélites. Il voulait crever leurs droits de tous les hommes. Est-ce que vous pouvez vous penser, mais pourquoi il fait ça? Est-ce que juste par méchanceté? Oui et non. Parce que quand ils sont crevés le droit, ils seraient ainsi incapables de se battre. Mais ils pourraient travailler quand même comme des esclaves. Donc vous voyez l'astuce? L'humiliation, mais n'empêche quand même, on va les récupérer pour les faire travailler pour nous. Donc ce qui est dans la tête des Amon, c'est son territoire, le territoire qui pensait que c'était à lui. Or, il y a depuis 300 ans, ce n'était pas le cas du tout. Donc, voilà le trait de caractère. Je veux mon territoire. Et puis, il faut dire que les Ammonites étaient relativement forts à l'époque. Et les Israélites tremblaient dans leurs bottes. Et disaient, d'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut signer un genre d'alliance avec vous? Et 1 Samuel 11, verset 1, nous lisons, « L'Ammonite vint assiéger Jabès en Galate, et tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Quand vous avez ça comme réponse, qu'est-ce que vous dites? « Waouh, super, je les ai eus. » Ils sont d'accord. C'est formidable, on les a eus. D'accord, on va signer alors une alliance, mais au lieu de signer l'alliance en bas de poche, comme nous venons de lire, voilà ce que nous allons vous demander pour occuper à nouveau ce territoire. Nous allons vous demander à ce qu'on crève l'œil droit à tous les Israélites, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Donc nous pouvons voir ici un autre trait de caractère des Ammonites qu'on décèle ici, c'est que pour arriver à leur fin, ils se servent de la moquerie, du mépris et du dédain. Donc, deuxième trait de caractère, il se moque de ces Israélites, il déshonore le peuple de Dieu. Et vous savez, un peu plus tard, après la mort de Nachash, son fils Hanun monte au trône du temps de David. Et Hanun, roi des Ammonites, a à peu près la même démarche auprès de David qu'avait eu son père Nachash auprès de Saül. Regardez 2 Samuel 10, c'est pas affiché sur le passage. Sur le PowerPoint, vous regardez 2 Samuel 10, versets 3 à 4. Nous lisons, donc plus tard maintenant, au temps de David, plusieurs siècles plus tard. Les chefs des fils d'Amon dirent à Hanoun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe. Mince, encore l'humiliation. Et il fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis les congédia. Et donc vous voyez encore ici, plus tard, il reste égal à lui-même, les Ammonites. Il se moque du peuple de Dieu, il va les humilier encore. La moquerie, le mépris à l'égard du peuple de Dieu. Revenons juste en Juge, chapitre 11, verset 29 maintenant, dans notre passage ici. Hein. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté alors qu'il marchait contre l'armée des Ammonites. Nous lisons au verset 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté, il traversa Galaad et Manassé, il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Et au verset 30, il dit à Dieu, Jephté qui parle, malgré donc ici son habileté, il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, ça veut dire que, rappelez-vous que Jephté, c'était un bandit, hein, il était rejeté par ses frères, il est fui, et il a amené des hommes à être à ses trousses, hein, et c'était un bandit. Et là, ils sont appelés de secours pour qu'ils viennent aider le peuple de Dieu contre les Ammonites. Et donc, il a une faculté, si vous voulez, hein, dans les guerres, dans les batailles. Mais ce qui est formidable, c'est que Jephté savait qu'il avait besoin du secours de Dieu dans la bataille. Verset 32 de Juges 11, Jephté marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Donc, le Seigneur lui accorda une grande victoire et cette fois-ci, c'est les Israélites qui humilièrent l'armée d'Ammon. Rappelez-vous de ce que je viens de lire. Hein? Les Ammonites veulent humilier le peuple de Dieu et c'est Dieu même qui prend les affaires en main et c'est lui qui va humilier les Ammonites. Nous lisons verset 33. Il leur fit éprouver, en parlant de Jephté, il leur fit éprouver une très grande défaite, en parlant des Ammonites, depuis Aroer jusqu'à Verminite, espace qui renfermait 20 villes jusqu'à Bel-Kéramine. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Quelle application pour nous aujourd'hui? Jephté avait des capacités. Et il nous faut aussi être reconnaissants à Dieu pour les capacités qu'il nous accorde et qu'il nous a permis d'acquérir. Mais cela ne suffit pas. Il faut prier pour l'aide puissante du Saint-Esprit dans notre service pour le Seigneur et dans le combat spirituel dans lequel nous sommes chaque jour. Notre ressource, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, c'est l'intercession même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous a laissé l'armure complète aussi, dont la prière est la pièce fondamentale, bien qu'il est nommé en dernier dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Ce qui nous amène maintenant à considérer le troisième ennemi d'Israël, qui sont les Moabites. Donc c'est clair maintenant, les Moabites, donc ça va être le fils de une des filles, c'est la fille aînée de Lot qui a commis l'inceste et qui a donné naissance à Moab, dont la descendance c'est les Moabites. Donc où se trouvent les Moabites sur la carte? Les Moabites se trouvent ici, ça c'est la mer Morte. Il se trouve donc à l'est, au sud-est de la mer Morte ici, Moab. Vous voyez, là. Et sur cette carte, ça n'apparaît pas, mais il y a Édom aussi, un ennemi d'Israël, et les Philistins ici aussi. Donc vous voyez, ils sont entourés complètement des ennemis de longue date. Hein. Donc Moab est situé du côté sud-est de la mer Morte, comme je viens de vous dire, au-dessus de Édom. Hein. Édom c'est ici, et Moab est là. Au-dessus du territoire octroyé à Ruben, à l'est du Jourdain. Donc n'oublions pas, le territoire Ruben est ici. Donc il est complètement dans le territoire de Ruben. Donc le genèse de cette tribu, nous venons de le dire, Et regardons maintenant rapidement les traits qui caractérisent les Moabites. Donc, j'aimerais maintenant que vous me suivez, regarder dans l'histoire du point de vue chronologique, que le trait de caractère qu'on va déceler ici, dans Nombre 24, 1 à 4, concernant les Moabites, on va le retrouver siècle après siècle. Après siècle, il reste égal à lui-même, toujours Moab. Et c'est ce que je veux faire maintenant. Donc faisons un bref saut en arrière au moment où Israël se dirige maintenant vers la plaine de Moab, où il se prépare à pénétrer à Canaan. Donc ici, nous lisons en Nombre 25, verset 1, 4. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha, et c'est très fort, mais dans l'original, s'accoupla à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous, avant de rentrer à Canaan, nous, il faut se rappeler de l'histoire qu'Israël avait donné une défaite cuisante aux Amoréens. Et en ce moment-là, alors, un roi qui s'appelle Balak commence à trembler en ayant pris connaissance de la défaite cuisante des Amoréens par les enfants d'Israël. Il fut très effrayé, et alors, il faut chercher un moyen d'en sortir. Comment fait-on pour en être délivré? Alors, vous connaissez l'histoire, Balak, donc, savait qu'Israël était beaucoup trop puissant pour être battu militairement, alors il décida d'employer qui? Balak, il y a quelqu'un qui, avec qui il a traité beaucoup de choses, Balaam. Donc Balaam, fils de Béor, un célèbre devin pour maudire Israël. Donc voilà l'astuce maintenant. Comme Israël est trop fort militairement, il faut trouver une astuce, une ruse pour pouvoir les battre. Et donc, on va utiliser Balaam, un célèbre devin pour maudire le peuple d'Israël. Et nous allons lire ici ce que nous venons de lire, Nombre 25, donc versets 1 à 4, mais je rajoute versets 5 à 6. Regardez bien, Nombre 25, donc là c'est l'astuce, on va les livrer à la débauche avec la divinité ou l'idole Baal-Péor. Et maintenant, la suite de ce passage, versets 5 à 6, il envoya des messagers auprès de Balaam, c'est-à-dire Balak, Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi, viens Balaam, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, peut-être ainsi pourrais-je le battre et chercherai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Alors, Balaam va préciser aux envoyés de Balak qu'il refuse de maudire Israël car il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Nombre 22, 13. Il est coriace, Balak. Alors, Balak envoie à nouveau à Balaam d'autres émissaires, cette fois-ci, pas n'importe qui, mais des émissaires de très haut rang. Et pas seulement des gens importants, mais avec, dans la poche, beaucoup de sous. Pour essayer de amadouiller Balaam pour qu'il puisse maudire le peuple de Dieu. Vous pouvez lire ça, Nombre 22, verset 15 à 18. Je ne veux pas le lire, mais vous pouvez le voir. Ces émissaires de haute condition sociale avec une somptueuse proposition financière. Et est-ce que Balaam a cédé? Balaam ne pourra prononcer que des mots inspirés par le Seigneur, il le disait, malgré la somme d'argent qui est donnée. Et Balak est fort, il va encore sacrifier des bœufs, des brebis devant Balaam, une nouvelle fois, pour que Balaam bénisse maudit le peuple d'Israël. Et donc, Balak va demander à Balaam de ne pas bénir le peuple s'il n'arrive pas à le maudire. Oui, il change de stratégie. Et donc, tu ne bénis pas le peuple si tu n'arrives pas à le maudire. Et Balak va exiger encore une troisième tentative, mais la bénédiction de Balaam est encore plus puissante. Nombre 24, verset 1 à 9. J'aimerais que vous lisiez toutes ces histoires. Donc, Balaam n'avait pas réussi à maudire Israël. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va indiquer aux Moabites, aux Madianites, le moyen de faire tomber le jugement de Dieu sur le peuple. Écoutez bien. Il n'arrivait pas à maudire Israël. Et donc, c'est Balaam lui-même qui va indiquer à Balak, tu vas faire comme ça pour que le jugement de Dieu tombe sur le peuple et tu as gagné. Et donc, le moyen de faire tomber le jugement de Dieu sur ce peuple, il leur conseilla de séduire les Israélites par l'idolâtrie et l'immoralité. Est-ce que ça a marché? Et oui, ça a marché. C'est ce que nous lisons ici. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea, se prosternant devant leur Dieu. Nombre 25, verset 1. Et Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ça a marché. Nous lisons que c'est bien Balaam qui a suggéré l'idée. Nombre 31, verset 16. Voici, ce sont elles, ça veut dire les filles, qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité ou à la débauche envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Je vous ai dit ici, Israël s'attacha, ça veut dire s'accoupla à Baal-Péor. Pourquoi? On peut utiliser cela, et c'est le sens même étymologique du mot, parce qu'à l'époque, ceux qui adoraient cette idole pratiquaient l'immoralité sexuelle et se joignaient à des festins au cours desquels on consommait de la nourriture sacrifiée à ce dieu. Ça, c'est la pratique des Ammonites. Je vous ai dit, ça c'est au début. Maintenant, sautons plusieurs siècles après, et ici maintenant, là le verset que je vous donne maintenant, recherchez Esdras 9, 1 et 2 et Néhémie 13, 23 à 25. Cherchez-le, on va le lire. Nous sommes maintenant plusieurs siècles après, au retour de l'exil, après 70 ans de captivité à Babylone. Vous voyez, on va regarder que Moab reste toujours tel qu'il est et tel qu'il a été depuis le début. Néhémie, Esdras 9, versets 1 à 2. Donc plusieurs siècles après. Verset 1. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs, les lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations. Celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 2, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Je répète encore, il ne s'agit pas d'une discrimination raciale, mais il s'agit d'un enjeu spirituel dans la motivation de l'interdiction de Dieu. Donc vous voyez, et ici, tout le monde est dans le panier. Ceux qui font l'office religieux, ceux qui sont très haut placés dans l'administration du pays, tous ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays-là et ont commis le péché, comme nous lisons. Regardez Néhémie encore, 13, versets 23 à 25. Encore, nous sommes plus loin maintenant, après les 70 ans de captivité à Babylone. On est au retour, donc, le retour du pays. Hein. Néhémie 13, verset 23. « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes macédoniennes, des Mammonites, des Moabites. » Verset 24. « La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien. Ils ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frapperai quelques-uns, je leur arracherai les cheveux. Et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour votre fils, ni pour vous. » Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes à plusieurs siècles plus tard au moment du retour des Juifs à Jérusalem, après la captivité de 70 ans à Babylone, et le trait de caractère de Moab n'a pas changé d'un iota. La stratégie marche toujours pour corrompre les peuples d'Israël. Il a utilisé la tactique de séduire, de conduire Israël dans la débauche, dans les beuveries, pour finir dans l'idolâtrie. Donc, vous voyez? Et cette stratégie marche à tous les coups. On commence par la débauche, la beuverie, et on finit par dans l'idolâtrie. Et je comprends mieux maintenant. Pourquoi le peuple de Dieu est toujours fasciné par ces cultes idolâtres? Parce qu'il y a ces pratiques liées avec l'immoralité sexuelle, et ça les a attirés. Et chaque fois que je lis, je vois toujours le lien entre ces choses. Hein, et Israël a tombé, pourquoi ils étaient attirés? Ils ne se contentaient pas de leur vrai Dieu. Pourquoi? Mais voilà la raison. On voit dans l'exemple de Moab, les Moabites. Donc, a retenu ce qui s'est révélé vrai dans ce contact avec Israël dans le désert, par l'intermédiaire de Balaam que nous venons de parler tout à l'heure, et resté toujours vrai, même à l'époque d'Esdras et Néhémie, après 70 ans de captivité et de retour à Babylone. Les choses restent les mêmes. J'ai pas le temps, je vous le dis là, parce que le temps avance, hein, mais j'aimerais encore que vous regardiez chez vous Jérémie 48, qui confirme à nouveau ce trait de caractère de Moab. Jérémie 48, qui est un long chapitre qui parle de la prophétie contre Moab. Maintenant, je veux terminer et faire un grand bond maintenant, plusieurs siècles encore plus tard maintenant, et nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez avec moi que ce qui s'était passé au temps où Israël sortait d'Égypte, ce qui s'est arrivé que nous venons de voir après les 70 ans de captivité, maintenant nous faisons un bond et nous allons retrouver la même chose dans le Nouveau Testament et dans l'Église. Est-ce que quelqu'un sait de quel passage je suis en train de parler? Je veux qu'on regarde. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Regardez, c'est une lettre qui est adressée à Pergame. Nous lisons Apocalypse 2, verset 12 à 14. Nous sommes donc maintenant vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, où ce trait de caractéristique des Moabites, cette fois-ci, est enseigné complètement dans l'église, à Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. C'est bien. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Reproche maintenant, mais, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak, donc c'est bien lui qui était à l'origine de l'idée, à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la débauche. J'aimerais juste, toujours quand on étudie un passage biblique, regarder le contexte. Pergame, vous savez, c'est la capitale de la province d'Asie et le centre du culte d'Esculape. Quelqu'un sait ce dieu, Esculape? C'est le dieu de la guérison. Est-ce que vous êtes allé à une pharmacie? Qu'est-ce qu'on voit, symbolisant, quand on dit « Ah, cette pharmacie est ouverte ». Je vois quoi? Un serpent! C'est le dieu Esculape. Quand vous voyez les médecins, ils ont les vignettes sur la voiture pour dire qu'ils sont médecins, vous voyez quel symbole? Esculape. Eh oui. Donc, ici, le Pergame était le centre du culte d'Esculape, le dieu de la guérison. Et l'emblème de ce dieu était le serpent dans lequel les chrétiens voyaient le symbole de qui? Là où Satan a sa demeure, c'est le symbole de Satan. Donc le Seigneur décrit Pergame ici, là est le trône de Satan, là où demeure Satan. Donc c'est dans cette ville que le fidèle Antipas fut martyrisé, n'est-ce pas? C'est ce que nous venons de lire. Jésus loue l'église de Pergame, tu retiens mon nom, verset 13. Donc ses membres ne réunissaient pas leur Seigneur malgré cet environnement pervers et malgré l'opposition au témoignage chrétien. Ce qu'il faut retenir encore, lorsque Satan ne peut pas détruire l'église par la persécution, Satan va changer de tactique et il va chercher à la séduire par la débauche afin de l'éloigner de Jésus-Christ. Et ce que nous lisons ici, il se trouvait parmi eux quelques personnes attachées à la doctrine de Balaam qui suggéraient à Balak le moyen d'entraîner les Israélites dans l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Donc, Apocalypse 2,14, c'est exactement, mettez en parallèle ce que nous venons de voir, Nombre 25, 1 à 3 et Nombre 31, 13. Ça va ensemble. Il fait appel à ces passages, ces événements, ces faits, en parlant ici dans Apocalypse 2,14. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à cette église? Ces personnes encourageaient les chrétiens de Pergame à participer aux orgies idolâtres et immorales des païens. Donc, quand je prépare le message, j'imaginais dans mon esprit que des membres et plusieurs des membres de l'église fréquentaient ces fêtes païennes et avaient certainement participé aux pratiques immorales qui les accompagnaient toujours. Les Israélites avaient aussi agi de même au jour de Balaam, comme je viens de vous rappeler. Est-ce que Christ est content? D'après ce que nous venons de dire, non. Christ tient en horreur les fausses doctrines et une vie dépravée. Et l'église de Pergame n'aurait dû pas tolérer cela en son sein avec ces personnes. Et vous voyez la menace ici. Christ, qui a l'épée aiguë à deux tranchants dans sa bouche, a averti les croyants de l'église qu'il va se présenter et les combattre s'ils ne se repentent pas. Apocalypse 2, 14 à 16. J'aimerais faire une parenthèse pour attirer votre attention. Je vais finir bientôt. C'est qu'il y a une similarité ce qu'a vécu Pergame et ce que nous vivons maintenant avec le pass sanitaire. J'aimerais juste attirer votre attention au sujet de leurs circonstances à ces chrétiens à Pergame, parce qu'ils vivent une circonstance un peu similaire à ce que nous vivons aujourd'hui, comme j'ai dit, avec le pass sanitaire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter dans les hypermarchés si vous n'avez pas le passe sanitaire pour les hypermarchés. Ça, c'est vrai. Si vous êtes vendeur, vous ne pouvez pas vendre. Je prends un exemple, un restaurateur. Il ne peut pas accueillir les clients s'il ne contrôle pas les passes sanitaires. S'il va aller outre la loi, qu'est-ce qui se passe? Il va risquer de grosses amendes. Je ne sais plus combien la somme, mais aussi jusqu'à une fermeture administrative de son établissement. Vous voyez? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je parle juste d'un restaurateur, mais on peut étaler beaucoup d'autres situations. Et vous savez, à leur époque ici, les chrétiens, vers la fin du 1er siècle aussi, après Jésus-Christ, pour eux, le refus de manger de la viande sacrifiée aux idoles et surtout d'assister aux fêtes païennes conduisait les croyants à se tenir à l'écart d'une grande partie de la vie sociale de l'époque. Et pas seulement cela. Et pire encore, parce que vous savez, chaque profession avait ses dieux attitrés et qui étaient adorés au cours de ces fêtes. Et celui qui n'y participait pas, c'est là que je fais l'allusion, risque de perdre leur travail et de ne plus pouvoir exercer son métier. Alors, il devient un paria. Vous voyez? À peu près. Mais ils ont vécu ça. D'où je comprends la pression dans leur vie. d'être tenté de prendre Dieu dans une main et de prendre les divinités dans l'autre main. C'est la tentation dans laquelle il se trouve. Et que nous enseigne Jésus dans ce message? Il se sert du profil des Moabites, en particulier de cet incident entre Balaam et Balak, roi de Moab, pour démontrer que le rôle que jouaient les Moabites vis-à-vis d'Israël, écoutez-moi bien, est un même rôle que jouait notre ennemi dans le contexte de l'Église ici à Pergame. Ce qui était vrai avec Israël, là aussi c'est pratiqué ici, au sein de l'Église même, à Pergame. Donc, comme nous venons de lire, il y a quelqu'un au sein de l'Église de Pergame qui enseignait cette doctrine de Balaam. Donc l'Église n'était pas pleinement consciente des dangers qu'entraînait cette attitude de compromis avec le monde. Elles auraient dû prendre les sanctions à l'encontre de ceux qui s'étaient égarés dans cette voie. Donc vous voyez, en faisant plusieurs bonds de siècle en siècle, on voit que le principe tactique de l'ennemi est toujours valable pour tous les temps, même pour nous aussi aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'abri. Alors, pour pouvoir nager à contre-courant du monde avec ses valeurs et sa philosophie, Dieu nous a donné les armes. Et la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche, la fornication. Ce que chacun de vous sache posséder son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. 1 Jean 2, 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et Paul dit en Galates, ceux qui ont Christ, sont en Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et il dit encore Paul à 1 Corinthiens 6, 13, mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Vous savez, cet enseignement dans lequel nous sommes avertis maintenant est dangereux. Vous savez, j'entends ici et là, de nombreux croyants tombent dans l'immoralité et leurs foyers sont brisés et leur témoignage pour le Seigneur ruiné. Je ne veux pas rester dans une note sombre et négative, mais sachez-le, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui aussi. Je veux terminer avec les Moabites avec une note positive et très encourageante. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est Moabite et qui vivait autrement que ce qui était voué au dieu Baal-Péor? Ruth, c'est une femme Moabite, n'est-ce pas? Ruth, chapitre 1, verset 3 et 4, Élimélec, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'un se nommait Orpa, et l'autre se nommait Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Ruth est un exemple de vie transformée par Dieu. Alors qu'elle était une Moabite d'origine païenne, après sa rencontre avec le Dieu d'Israël, elle est devenue un témoignage vivant de foi en lui. Je vois dans la vie de Ruth, Dieu accomplir son plan parfait, comme celle de tous les enfants de Dieu, ici dans cette salle. N'est-ce pas? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je dirais aussi que on peut remarquer dans la vie de Ruth la manifestation de la grâce de Dieu dans sa vie. Vous savez, Ruth, avec deux autres femmes, sont les seules femmes, si je peux dire, inscrites dans la lignée de Jésus. Lisez Matthieu. Ça montre la grâce de Dieu. Et combien ce matin, nous sommes dans un monde corrompu, anti-Dieu, et dont l'immoralité est poussée. et je dirais honoré, et je dirais c'est coutume. Et l'Église du Seigneur doit être préservée de cela. Et nous pouvons vivre à contre-courant, comme Ruth, où la grâce de Dieu était dans sa vie. Je me rappelle de ce qu'il dit à sa belle-mère. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Qu'il en est ainsi pour nous aujourd'hui aussi. Quel bel exemple. Là où le péché abonde, la grâce surabonde.